Il y a un garçon qui me plaît bien.
Tu vas être ma cavalière pour le bal?
Non, ça va pas la tête.
T'as déjà pensé à lui demander ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime?
Avoue que t'as perdu ta fleur avec lui. Non, tu délires, je suis certaine que si.
Je vais vous donner des préservatifs.
Non, merci, ça va aller.
Qu'est-ce que c'est que ce charivari?
On se reverra quand on sera plus cool, ça vaut mieux.
Alright, alright, alright.
Aujourd'hui, c'est Moxie. Quand j'ai découvert ce film il y a quelques mois, j'ai tout de suite voulu en parler dans ce podcast parce que je l'ai apprécié. Et puis, en le revoyant ces dernières semaines pour l'écriture, il m'est apparu qu'il fallait vraiment que j'en parle, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Si ça, c'est pas une vraie leçon de vie, pouvoir changer d'avis, poser un autre regard sur la même œuvre à quelques jours, mois, années d'intervalle, parce qu'on a changé, mais aussi parce qu'en fonction de l'état dans lequel on est quand on découvre quelque chose, cela peut plus ou moins nous toucher. Tout comme après quelle œuvre surgit la découverte d'une nouvelle œuvre. En l'occurrence, j'ai découvert Moxie l'été dernier, juste après mon tout premier visionnage ever de la saison 1 de Skins. Souvenez-vous cette série teen anglaise bien trash, avec un casting évolutif de 2007 à 2013, tous les persos sont bien fuckés, antipathiques et résistent mal à l'épreuve du temps. En tout cas, la saison 1 a mal vieilli. J'ai maté difficilement et avec douleur les 9 épisodes d'une heure, je n'ai même pas poussé le vice à m'imposer la saison 2. Alors forcément, quand je découvre Moxie à la fin du tunnel peu reluisant de Skins, ce film m'apparaît comme la lumière divine. En le regardant à froid et de plus près, tout n'est pas aussi lumineux et salvateur qu'il n'y paraît. Et c'est ce dont on va parler. Donc, Moxie est un film sorti en mars 2021, exclusivement sur Netflix, et réalisé par Amy Poehler, brillante humoriste, actrice et scénariste américaine, entre autres connue pour ses faits d'armes au SNL et pour la série Parks and Recreation, dont elle tient le rôle-titre. J'ai repris la même définition que celle utilisée pour Tina Fey dans l'épisode sur Mean Girls, car elles ont un parcours très très similaire, et en plus elles sont bestas dans la vraie vie. Poehler, avec ce film, elle adapte à l'écran le roman éponyme de Jennifer Mathieu, une autrice de littérature jeune adulte destinée aux 12-18. C'est la deuxième réalisation d'Amy Poehler, 2 ans après Wine Country, un road trip d'amis cinquantenaires qui font la route des vins dans la vallée de Napa, un tout autre délire à vrai dire. Il n'y a personne de bien connu dans ce film, pour la plupart c'est des jeunes actrices et des jeunes acteurs, il s'agit de leur premier film, à l'exception de Patrick Schwarzenegger, fils de l'Arnold du même nom, mais même lui il n'a pas vraiment de carrière à proprement parler pour le moment. Synopsis du film directement pompé depuis Wiki. Dans le lycée de Viviane, le sexisme règne en maître. Les garçons harcèlent les filles et vont jusqu'à créer des classements selon le physique. Pendant ce temps, les filles font profil bas, mais un jour Viviane décide de changer les choses et édite le premier numéro du Moxie, un fanzine qui s'inspire des fanzines féministes créés par sa mère lorsqu'elle était elle-même au lycée. Ça a parlé de féminisme au cas où vous en doutiez encore. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce film? Sauvée d'un terrible cauchemar par la sonnerie du réveil, Viviane, jeune adolescente, se plonge encore dans le gaz, directement dans son PC resté allumé sur lequel on peut lire la consigne d'un essai. Reflect on a cause you feel passionate about. Explain its significance to you and what steps you took to make a change. Parlez d'une cause qui vous tient à cœur et de ce que vous avez entrepris. C'est le jour de la rentrée en première à Rockport pour Viviane. Elle croise sa mère en partant au lycée, mère jouée par Amy Poehler. Elle retrouve sa besta Claudia devant le lycée, qui lui dit que...
Tu savais que le classement avait déjà commencé?
Quoi? Mais c'est à peine la rentrée! Non mais franchement, ils ont même pas eu le temps de nous regarder!
C'est Emma Cunningham qui va te nommer la plus baisable pour la deuxième année consécutive.
On n'en sait pas plus pour le moment. Premier cours, on remarque une nouvelle élève, d'emblée prise pour cible par Mitchell, le quarterback de la classe, qui est joué par Patrick Schwarzy. Le cours commence par les annonces du matin, le journal télé du lycée, pendant lequel un élève s'adresse à Viviane.
T'as passé de bonnes vacances?
7? T'as l'air différent.
En fait, cet été, j'ai pris quasiment 8 cm.
Wow.
Mais j'ai des douleurs de croissance, ça fait trop mal, tu vois. C'est mes genoux, surtout.
Silence!
Interrogée par le prof de littérature, Lucie donne son avis sur Gatsby le Magnifique.
Vous êtes nouvelle. Vous vous appelez Lucie Hernandez, soyez la bienvenue. Je vais vous poser la question qu'apparemment maintenant on doit poser sur toutes les œuvres, quel que soit leur thème ou quelle que soit leur période. Comment les femmes y sont représentées?
Je crois que la vraie question c'est plutôt pourquoi on continue à lire ce livre?
Il a été écrit par un homme blanc et riche et parle d'un homme blanc et riche pour lequel on devrait ressentir de la compassion. Si le but, c'est d'en savoir plus sur le rêve américain, on devrait plutôt lire sur l'immigration. Ou sur la classe ouvrière, ou alors sur les mères noires, du moins, sur un personnage qui a peint un manoir.
Il se fait interrompre par Mitchell.
Pourquoi on lit pas Sandra Cineros?
Je l'ai trouvé super, alors... ce bouquin.
J'avais pas fini, en fait.
Oui, je sais, mais Gatsby le Magnifique, c'est un classique. C'est pas parce que d'autres livres sont bons que celui-là peut pas l'être lui aussi.
De retour à la maison, Viviane planche sur son essai, mais n'arrive pas à trouver une piste d'idées solide. Dans la cour du lycée, Viviane et Claudia échangent sur Seth la crevette, qui fait du skate. Ce serait pas un peu un surnom raciste?
T'as remarqué que Seth Acosta est super sympa avec tout le monde?
Attends, Seth la crevette?
Oh, c'est plus une crevette, cet été il a pris genre 30 cm.
Waouh, t'as raison, il va falloir qu'on lui trouve un nouveau surnom.
Mitchell retrouve Lucie au distributeur de boissons et l'intimide avant de cracher dans son soda.
Je crois qu'on est parti du mauvais pied, tous les deux, hein?
Non, ne me touche pas.
Pourquoi faut toujours que ce soit compliqué avec toi?
C'est toi qui es en train de péter un câble.
Bienvenue à Rockport.
Elle va donc plaider sa cause chez la proviseur, Marlene Shelley.
Mitchell.
Oui.
Wilson.
Oui.
Le capitaine de l'équipe de foot.
Oui.
Et il vous importune alors?
Non, c'est du harcèlement.
C'est ce mot-là. Si vous prononcez ce mot-là, je vais devoir lancer toute une procédure de mon côté. Mais s'il ne fait que vous importuner, et c'est l'impression que ça me donne, alors ça nous laisse la possibilité de discuter.
Viviane, qui a assisté à l'altercation entre Mitchell et Lucie, elle interpelle cette dernière dans l'escalier en lui conseillant de faire profil bas. Mais en rentrant chez elle, après avoir discuté avec sa mère...
Maman, tu saurais pas quelles causes tiennent à cœur les filles de 16 ans, par hasard?
Hein, je sais pas. Moi, quand j'avais 16 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était démolir le patriarcat et tout brûler sur mon passage.
Viviane va fouiller dans ses affaires pour trouver une veste en cuir, des fanzines, des photos, des tracts.
Parce qu'on ne veut pas être assimilé à d'autres voies que la nôtre, ni à des règles sur une conduite à tenir. Parce que je pense de tout mon cœur et de tout mon esprit que les filles constituent une force révolutionnaire qui peut changer le monde et qui le fera.
Le lendemain, c'est la présentation de l'équipe locale de football américain, les Pirates.
Non mais regardez ça, imaginez comment ça serait si on puisse y gagner.
C'est clair, vous l'avez entendu. Si ces rassemblements étaient organisés pour les équipes qui gagnent, alors ça serait le foot féminin qui serait applaudi.
Rencontre pendant laquelle est diffusé le classement des filles du lycée. L'alcoolo de service, la sainte nitouche, la meilleure branlette, oui oui, les plus beaux nichons, la plus baisable, le plus beau cul. Lucie fait partie de la liste et interpelle la proviseure à ce sujet qui minimise le souci.
Vous avez vu de quoi il me traite?
Oh, non, ce sont les réseaux sociaux, je n'y comprends rien.
Non, c'est une liste.
Écoutez, Lucie, il faut savoir rester de marbre. Il faut rester de marbre.
C'est une blague.
Allez vous asseoir, le match va commencer.
La présentation du match commence, Viviane se défile, elle rentre chez elle, excédée, et montage dynamique sur musique énervée. Elle commence le brouillon d'un fanzine et file chez l'imprimeur du coin.
Je vais avoir besoin d'un max de photocopies.
Aparté d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est qu'un fanzine, mais je précise quand même, pour les 2-3 au fond qui n'ont pas suivi, un fanzine c'est une publication imprimée ou en ligne, indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés pour d'autres passionnés. Le lendemain, Viviane profite d'un moment où tout le monde est en cours pour aller déposer dans les toilettes des filles plusieurs tas de fanzines. Mitchell pense direct que c'est Lucie qui est à l'origine de cette rébellion.
Je te le rendrai quand tu auras avoué que tu l'as écrit. Tu sais qu'il y a de vrais problèmes dans le monde, pas vrai? Genre bien plus grave que le fait que deux élèves de ton lycée te trouvent trop laide.
Le fanzine encourage des élèves qui veulent protester à dessiner des étoiles et des cœurs sur leurs mains.
C'est pour faire la révolution, ma belle.
Je vois pas en quoi des gribouillis sur nos mains vont changer quoi que ce soit.
Ben, moi je pense que c'est mieux que rien.
Le lendemain, Viviane sent un vent de sororité dans les couloirs du lycée.
Oh, salut Viviane, salut. Trop classe tes étoiles.
Oh, merci les tiennes aussi. Salut Meg, ils sont sympas tes dessins.
Oh, merci.
Les tiens aussi.
En fait, j'ai pris une photo et j'ai lancé le hashtag « Les filles de Moxie se défendent ». On est plus nombreuses qu'on croit.
C'est trop cool.
Et guess what? Seth, il s'est dessiné des cœurs et des étoiles aussi. Ouh.
Trop sexy.
Alors je sais qu'on dit « cesse »,« Seth », mais je sais pas le dire parce que j'ai pas un accent de malade. Donc je vais dire « Seth » et tant pis. La principale s'incruste en plein cours pour remettre en question la tenue d'une des élèves.
Kathleen Price, vous auriez un pull ou une veste?
Pourquoi?
Eh bien, vos bretelles sont très fines et elles révèlent trop vos clavicules.
Viviane en parle à sa mère le soir venu et lui demande conseil. Comment elle faisait à l'époque pour savoir quoi faire ?
On n'en savait rien. On a commis de terribles erreurs. On se disputait beaucoup, on n'était pas assez solidaires des autres causes.
Arrive le moment de la soirée chez un mec du lycée, où elle tombe sur les footballeuses, qui les convient à un conciliabule secret dans un bureau.
Laquelle d'entre vous est Moxie ?
Je crois que cette personne veut juste que notre lycée soit un lieu plus sûr et plus juste.
Vous savez ce qui est injuste ? Notre équipe est allée en finale de l'État l'an dernier et nos tenues sont pourries.
Vous savez ce qui est tordu ? J'ai été renvoyée chez moi parce que j'étais en débardeur, alors que Jason est tout le temps sans t-shirt.
Vous savez ce qui est aussi tordu pour moi ? J'aime pas ça d'être nommée le plus beau cul.
T'aimes pas ça ? Pourquoi ?
Parce qu'historiquement, les femmes noires ont toujours été jugées sur leurs fesses et leurs cheveux et on en a ras le cul.
Je suis trop contente qu'on parle de ça. Sérieux, vous savez que ce lycée est bizarre. Oh. Les filles, on vient de faire la première réunion officielle de Moxie.
Viviane tombe sur Seth dans les couloirs du lycée où elle se faufile commando pour aller déposer de nouveaux fanzines. Il découvre donc que c'est elle et se comporte comme un allié en disant ceci.
Tu peux peut-être m'enfiler quelques-uns. Je pourrais les mettre dans les toilettes des mecs. Est-ce que c'est normal que je sois pas si surpris que ça ? À l'époque de la maternelle, déjà, tu voulais toujours mettre les araignées dehors quand tout le monde voulait les écraser.
Cette analogie avec les araignées, j'ai pas bien compris. Dans ce nouveau numéro de Moxie, les filles sont invitées à venir en débardeur au lycée.
Je voudrais trouver un débardeur avec un imprimé léopard pour rappeler à tout le lycée qu'on a des griffes et qu'on peut très bien s'en servir.
En plein shopping, Viviane explique que Claudia est sa meilleure amie.
Mais c'est quoi son souci à Claudia ? Vous êtes super différentes.
Tu trouves ? On est toutes les deux INTJ dans le test Myers-Briggs. En fait, c'est un test de personnalité. Ça veut dire qu'on est introverti. Claudia est pratiquement ma sœur. On fait tout ensemble.
Le jour J, Claudia tente de se faufiler en douce de chez elle, mais se fait coincer par sa mère. Et on ne traduit d'ailleurs même pas le discours de la mère en mandarin, tranquille. En tout cas, Claudia, t'as pas les techniques au point. Tu prends ta tenue dans ton sac, tu te changes une fois sortie de chez toi. C'est le béaba. Le jour J, donc, contrairement à la journée étoile et cœur sur les mains qui avait été suivie, mais sans plus, là, la mobilisation, elle est partout. Toutes les jeunes filles portent un débardeur, toutes sauf Claudia, ce qui déçoit Viv. Seth, lui aussi, porte un débardeur. Tellement il est cool. Nouveau match des pirates, mais juste avant, Shelly annonce les candidats à l'élection de l'ambassadeur de la vie sportive. Il n'y a que Michel qui s'est présenté, mais Lucie prend la parole en public pour proposer une autre candidate.
Je voudrais nommer Kiera Pascal, la capitaine de l'équipe de foot féminin.
Il faut 5 votes minimum pour valider une candidature. En plus de Lucie, Amaya, Kathleen, Viviane et Seth votent en faveur de la candidature de Kiera, qui devient donc effective. Claudia quitte le match avant même qu'il ne commence, Viviane lui court après et s'ensuit une confrontation.
Je peux savoir ce qui t'arrive, pourquoi t'as pas voté pour Kiera ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? T'as qu'à retourner avec tes copines. Alors c'est ça le souci, tu m'en veux parce que je me suis fait une nouvelle copine. Pourquoi tu t'en fous du combat qu'on est en train de mener ?
Non, je m'en fous pas, mais moi me faire remarquer, c'est pas mon truc.
Ok, ben c'est quoi ton truc alors ?
Je croyais que mon truc c'était toi. Et que notre truc à nous c'était être meilleures amies.
À ce moment-là, Seth arrive et emmène Viviane en date. Dans un funérarium. Oui, oui. Alors, on sait que les ados aiment bien le dark, le glauque, ça aime le flirt avec le rapport à la mort, mais dans la situation présente, c'est vraiment littéral, quoi. Et là, le mec lui demande...
Alors, lequel tu prends ? Et attention, sache que le cercueil que tu vas choisir va en dire très long sur toi.
Mais Seth, c'est quoi ce fétichisme chelou, là ? T'es même pas émo en plus, c'est vraiment weird. Et puis cette scène se finit, tous les deux ils sont allongés côte-côte à écouter du vieux punk dans un cercueil ouvert. Pire romantisme possible. Il la ramène chez elle, et au moment où elle va pour rentrer dans sa maison, il sort de sa voiture et lui balance.
Tu me plais. Beaucoup, je te jure. J'en sais rien, je crois que j'ai commencé à flipper tout seul dans ma tête. J'avais peur de peut-être y aller trop fort avec toi, cette espèce de féministe hyper déterminée. Et t'es pas juste une fille jolie, quoi. Enfin, je veux dire, je te trouve jolie, te méprends pas, mais...
Il pensait peut-être bien dire, mais rien ne va dans cette phrase. Bon, on va dire qu'il est pris de court et qu'il s'en mêle les pinceaux. Elle se jette sur lui pour l'embrasser, ou le faire taire, ou les deux. Back to reality, la campagne de Kiera Pascal bat son plein. Et Claudia apporte sa pierre à l'édifice.
Moxie fait maintenant officiellement partie des clubs du lycée et a donc accès à des privilèges comme accrocher des trucs au mur.
Vous vous êtes toutes cassées le cul pour cette campagne et ça serait dommage qu'un détail technique vienne tout gâcher. Je soutiens la lutte, ok? Mais il faut me laisser faire les choses à ma manière.
C'est très important ce qu'elle vient de dire à l'attention de Viviane. Que chacune fasse les choses à sa manière. Ne pas contraindre les autres à faire comme bon te semble, Vivi. Le jour du vote, Mitchell fait une intervention en direct aux annonces du lycée pour dénoncer le harcèlement dont il se sent victime et inciter à voter en sa faveur. Kiera n'est pas conviée pour s'exprimer elle aussi.
Donc ce soir, avant de mettre votre bulletin dans l'urne, posez-vous ces questions. Qui est Moxie? Et à qui s'en prendront-ils ensuite? Parce que ça pourrait être vous.
Comme on peut s'y attendre, une fois qu'on a vu une dizaine de films, Kiera ne gagne pas l'élection.
Félicitations à Mitchell Wilson.
De colère et de dépit, Viviane démarre une nouvelle offensive. Elle colle des autocollants estampillés « Collectif Moxie » partout dans le lycée. Des autocollants sur lesquels sont marqués « You're an asshole »,« Tu es un sale con ». Convoquée dans le bureau de la proviseure, elle cherche des réponses.
Mais pourquoi vous avez laissé la parole à Mitchell pendant les annonces du matin?
Je lui ai laissé la parole parce qu'il me l'a demandé. Si une personne de Moxie en avait fait de même, elle l'aurait eu aussi.
Mais comment on aurait pu savoir qu'il fallait vous le demander?
Si vous voulez une part du gâteau, il faut vous servir vous-même.
De retour au lycée, Viviane apprend par Lucie que Claudia s'est faite renvoyer à cause de Moxie. Elle se rend chez elle pour la soutenir.
Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Comment t'as deviné? On est meilleures amies depuis qu'on a 4 ans. Tu crois vraiment que tu peux mener une révolte sans que je le remarque? Mais je t'ai jamais demandé de t'impliquer autant. Bien sûr que si! Tu m'as fait culpabiliser parce que j'en faisais pas assez. Tu peux pas comprendre, Viv. Tu peux pas comprendre ce qui m'arrive parce que t'es blanche. Quoi? Tu sais tout ce que ma mère a sacrifié pour venir dans ce pays? Ce qu'elle a dû faire pour que je puisse aller à l'université? T'as pas idée de la pression de malade que je subis. Je peux pas me permettre de prendre des risques comme toi.
La mère de Viviane la convoque à un dîner avec John, son boyfriend. Pendant le dîner avec John et Seth, Viviane se vautre dans la mauvaise foi et la provocation.
Pourquoi personne me pose des questions sur la physique? Vous croyez que parce que je suis une fille, j'y connais rien en sciences?
Pas du tout. Tu veux parler de physique?
Vous saviez qu'il faudra 300 ans pour atteindre l'égalité homme-femme aux États-Unis? Qu'est-ce que vous faites pour y remédier, John?
Attends,
quoi? Tu vas me demander de me calmer, c'est ça? Tu veux que je sois plus gentille comme toi, que je veille à ce que tout le monde aille bien? Tu veux que je joue à la petite copine mignonne avec une petite queue de cheval? Ben laisse tomber les étoiles et les cœurs sur ma main. Et si j'écrivais plutôt ton prénom sur mon bras pour que le monde entier soit au courant que je suis ta propriété privée?
Viviane...
J'emmerde le patriarcat!
Et elle quitte la table. S'ensuit une confrontation mère-fille dans la chambre.
Je peux savoir ce qui t'arrive?
Laisse tomber. Il y a juste Claudia qui veut plus me parler, je vais peut-être me faire virer du lycée et je vais sûrement coucher avec Seth.
T'as lancé un club féministe?
Oui, et c'est entièrement ta faute. C'est vrai, j'ai lancé Moxie uniquement parce que tu m'as fait croire que j'étais une femme forte. Mais c'est faux, moi je suis pas du tout ce genre de personne. En plus, il y a rien qui fonctionne et il y a personne qui peut m'aider, je suis toute seule dans cette galère.
À présent, la voilà froissée avec sa mère et avec Seth.
Je suis vraiment désolée, j'ai subi beaucoup de pression ces derniers temps.
Ah bon? Parce que moi j'ai l'impression que tu fais des trucs délirants, que tu laisses d'autres personnes porter le chapeau et que tu te défoules sur moi, sur ta mère et sur le mec de ta mère qui est hyper sympa. Tout ce que j'ai fait, c'est te soutenir. Je mérite pas d'être ton punching ball.
Elle tombe sur une lettre à l'attention de Moxie dans les toilettes. Une jeune femme du lycée lui explique qu'elle a subi un viol.
Cher Moxie, c'est sûrement une erreur, mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. L'an dernier, j'ai été violée. J'aurais aimé parler, mais je ne voulais pas révéler mon identité. Tu fais avancer les choses et personne ne sait qui tu es. Tu pourrais m'aider? D'une anonyme à une autre?
En pleine nuit, Viv va taguer l'entrée du lycée à la peinture rouge. Rape Port au lieu de Rock Port. Rape voulant dire viol. Elle poste sur les réseaux sociaux, invitant les personnes soutenant la victime à sortir en plein cours le lendemain. Le professeur de littérature leur rappelle les règles.
Chaque élève qui sortira de classe pour manifester son soutien au groupe Moxie, qui a vandalisé les locaux, ce qui constitue un délit, sera exclu de l'établissement. Et moi, je m'en laverai les mains totalement.
Et sur ces derniers mots, il montre ses paumes, une étoile d'un côté, un cœur de l'autre. Sans rien prononcer, il affiche son soutien aux filles qui souhaitent protester, il prend position. Une foule de lycéennes déferle dans les couloirs et se rassemble devant le lycée. Viviane prend la parole.
Je déteste le fait qu'on soit toujours exclu, qu'on soit toujours mise de côté, qu'on soit jugée ou agressée.
Et en plus, personne ne réagit pour changer les choses. Personne ne nous écoute. Donc si vous devez exclure quelqu'un à cause de Moxie, renvoyez-moi plutôt, ok? C'est moi, ouais. J'ai créé Moxie. Je suis Moxie.
Alors renvoyez-moi aussi. J'ai créé le compte Instagram de Moxie. Et j'en suis méga fière. Je suis avec toi.
J'ai protesté contre le règlement. Je peux m'habiller comme je veux. Je vois pas ce que mon physique a à voir là-dedans. Et j'ai pas l'intention de changer.
Non.
Alors renvoyez-moi.
Et soudain, Emma, la pom-pom girl hyper populaire, prend la parole.
C'est moi qui ai écrit la lettre. C'est moi qui ai demandé de l'aide. Parce que j'avais l'impression que Moxie était le seul endroit où je serais écoutée.
On t'écoute. On est là.
Et on te croit sur parole.
L'an dernier, à la fin du bal, Mitchell Wilson m'a violée. On sortait ensemble à l'époque. Et il m'a violée dans ma propre chambre. Et ensuite, j'ai été élue la fille la plus baisable. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vraiment en colère et j'ai envie de crier hyper fort.
Suite à ces révélations, Shelley vient chercher Mitchell dans la salle de classe dans laquelle il était resté. On suppose qu'il va être renvoyé et peut-être, on ne sait pas, poursuivi. Et soyons fous, jugé pour ce viol. Claudia rejoint le groupe devant le lycée tandis que la prise de parole bat son plein.
Je voudrais juste dire que je suis 100% noire et que c'est comme ça. Mes cheveux sont pas une perruque, ils sont épais et frisés. Et c'est mon identité. Et non, je regrette, mais vous pouvez pas les toucher.
Dans la foule, Viv cherche du regard Seth qui lui dévoile son avant-bras sous sa chemise. Il y a écrit « Viviane » au marqueur. Oh là là, Viv s'en trouve toute chamboulée. Et the end. Alors, côté cliché, étant donné que le film est sorti en 2021, il n'y a pas trop de clichés typiques des teen movies avec lesquels ma génération et celle d'au-dessus ont grandi. L'héroïne est rebelle, classique pour une ado, mais elle se retrouve à se rebeller pour une cause autrement plus importante que la popularité, comme dans Mean Girls, ou la peur de finir puceau, comme dans Risky Business. Elle se découvre une passion dans la lutte contre le patriarcat. Peut-être à l'image des nouvelles générations d'ados qui ont des combats moins futiles que leurs aînés, parce que le temps presse, que les discriminations et oppressions perdurent et s'accentuent dans un monde qui se réchauffe de plus en plus vite. Moxie n'est pas le seul film à traiter de ce sujet. Les séries teen produites par Netflix, HBO, Prime, Disney+, s'emparent de sujets brûlants, et même quand le ton est léger, le fond est grave, comme s'il n'y avait plus de temps pour l'innocence et la légèreté. Le perso de Mitchell est vraiment le cliché du vilain, du méchant. On désigne de façon claire l'ennemi. On peut reprocher à la narration de charger le bingo de ce perso antipathique avec une dimension de violeur, ce qui donne un aspect gros sabot pas du tout nuancé, et en même temps, est-ce qu'on ne cherche pas à démontrer que l'impunité totale que le système sociétal accorde à un mec toxique permet une escalade dans l'horreur? Au sujet du crush. Moxie est un film de femmes, du coup peu d'hommes au casting. Deux surtout, le bad guy et le good guy. Pas de surprise à ce que le good guy soit le crush. Seth Acosta, oui je dis encore Seth. Et je dirai Seth jusqu'au bout du podcast. Seth Acosta, c'est l'ami d'enfance de Viviane, qu'elle voit subitement différemment à la rentrée, parce qu'il a grandi de 30 cm pendant l'été. Ça c'est le gros souci pour moi. Viviane, qui dans le même temps que son combat se met à apprécier un homme déconstruit parce que justement il l'est, flash quand même sur un mec grand, musclé, BG, qui coche bien les cases du mec cis-hétéro. Pire, avant qu'il ne soit grand, il était invisible à ses yeux. Ça aurait été intéressant qu'elle craque pour un mec par exemple plus petit qu'elle, ou plus frêle. Après, on peut noter que Seth est joué par Nico Hiraga, qui est un acteur américain aux origines asiatiques. Et c'est de plus en plus courant, depuis plusieurs années, que des personnes racisées soient les love interests. Ce qu'on peut applaudir. Seth n'est pas encore totalement au point, comme quand il banalise le comportement problématique de Mitchell.
C'est pas mon pote, je le connais depuis l'école primaire, c'est tout. Je sais que des fois il peut être chiant.
Mais il n'est pas à jeter au compost, loin de là. Seth est un BG, mais il ressent des émotions. Et il en parle. Comme pendant la scène où Viviane et lui sont en plein préliminaire et se posent la question de s'ils doivent aller plus loin.
Je crois qu'il faut que je te dise un truc. J'ai jamais...
Ouais, moi non plus.
Ok, mais... En fait, je voudrais que ce soit un moment spécial. Je veux vraiment que ma première fois, ça soit avec toi. Mais j'ai pas envie qu'on se dépêche parce qu'on doit aller à un match de foot après.
Et puis, point positif, il a des comportements d'allié à la cause féministe. Il est sensible à la lutte et il s'engage, comme quand il donne sa voix pour la candidature de Kira. Il aide à rendre visible le combat sans se mettre en avant ou devenir porte-étendard, comme quand il découvre que c'est Viviane à l'origine du fanzine.
Je comprends tout à fait que tu veuilles le réserver aux filles. Je me disais juste que les mecs du lycée auraient pu apprendre 2-3 trucs.
En bref, Seth tendrait à être un Golden Retriever boyfriend. Pleasant, supportive and unequal to his partner. Selon Urban Dictionary, le Golden Retriever, c'est en gros un copain facile à vivre, plaisant, qui est dans le soutien et qui est égal à son ou sa partenaire. Alors je vous concède que c'est pas foufou comme terme, c'est un terme qui a popé il y a un petit moment sur TikTok et c'est une définition qui a bien buzzé, mais j'ose espérer qu'on trouvera une meilleure appellation prochainement. Niveau chanson, on va pas tergiverser, le morceau du film c'est Rebel Girl de Bikini Kill. Bikini Kill, toujours selon le copain Wiki, c'est un groupe féminin de punk rock américain, considéré comme précurseur du mouvement Riot Girl, qui est un mouvement musical à la croisée du punk rock et du rock alternatif, aux idées féministes ayant émergé au début des années 90 aux États-Unis. Les groupes associés à ce courant musical dénoncent souvent les problèmes liés aux violences sexistes et sexuelles. Je précise quand même qu'au-delà d'incarner une scène musicale indépendante, Riot Girl s'implique également dans d'autres thèmes comme l'art et les actions politiques. Lidé par Kathleen Hanna, le groupe de musique a démarré ses activités par l'élaboration d'un fanzine. Ben oui, tiens. Moxie est trop récent et pas assez connu pour qu'une réplique soit devenue déjà culte. Les personnages étant dans l'ensemble pas très caricaturaux, il n'y a pas trop de sorties verbales inoubliables. En termes de tenue, c'est soft aussi, mais il y a la scène où elle porte tout un débardeur en cours le même jour pour protester contre le règlement injuste du lycée. Un vêtement aussi simple que le débardeur comme tenue de rébellion, ça je ne m'y attendais pas forcément en lançant le film. La scène la plus marquante est pour moi la scène de fin où chaque jeune femme prend la parole devant les autres lycéennes et lycéens, passage d'empouvoirment très fort, de réappropriation de soi et de sa propre histoire, sans honte. Je peux pas m'empêcher de trouver une similarité avec la scène de fin de Mean Girls dans le gymnase où chacune s'excuse haut et fort pour ses mauvaises actions envers les autres. La différence notable étant que dans Mean Girls, elles se font du mal les unes les autres, car une compétitivité règne entre elles. Là où dans Moxie, elles font bloc contre les violences misogynes, elles font preuve de sororité, et c'est justement en se serrant les coudes qu'elles peuvent lutter contre l'oppresseur. Elles sont à l'étape d'après de Mean Girls en termes de déconstruction et de lutte, 2004 versus 2021, ça avance. Donc, plein de choses très chouettes dans ce film, me direz-vous. Et à première vue, vous n'avez pas tort. Mais hélas, ça n'est pas parfait. Et vraiment, c'est embêtant parce que ça transpire le discours féministe, mais il manque la dimension fondamentale qu'est l'intersectionnalité. Et là, je vais déballer un gros pavé, attention. Dans Moxie, on épouse le prisme d'une héroïne blanche, hétéro, cisgenre. Le point de départ du film est que Viviane a un essai à écrire sur quelque chose qui lui tient à cœur. Et elle ne trouve rien à dire. Elle ne doit pas souffrir de grand-chose pour ne pas avoir grand-chose à raconter. Elle n'a aucune rage qui l'anime, peut-être de par sa position de privilégiée. Elle assiste à l'intimidation doublée de harcèlement que fait Mitchell à Lucie et ne réagit pas, comme on ferait toutes et tous à sa place quand on n'a pas la rage au ventre. C'est au contact de Lucie que Viv se sensibilise au féminisme. Le personnage racisé attire l'attention du personnage privilégié aux oppressions qu'elle subit, mais à aucun moment, Lucie ne glisse au centre de l'histoire. Quand Viviane se décide à faire un fanzine anonymement, l'initiative est applaudie. Alors que quel ado va préférer faire des fanzines à des vidéos TikTok en 2020, sérieusement? Tandis que depuis le début, Lucie se tient debout et exprime son point de vue haut et fort dans l'indifférence générale. Quand cette dernière se fait emmerder par Mitchell et son pote, qui la suspecte d'être à l'origine du fanzine, Viviane ne dit rien. Elle n'assume pas publiquement son propos quand cela peut lui amener des problèmes. Elle préfère même laisser courir cette fausse rumeur sur quelqu'un de déjà stigmatisé. De même, Viviane était sur le point d'effacer les cœurs et étoiles qu'elle a dessinés sur ses mains, mais quand elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, elle parade fièrement avec. Elle est faible face aux forts et forte au sein des faibles. La radicalité violente avec laquelle Viviane tombe soudainement dans l'activisme démontre aussi sa position privilégiée. Elle n'a peur de rien quand elle fait preuve de vandalisme dans l'enceinte du lycée, car elle sait que les conséquences ne risquent pas d'être dramatiques pour elle. L'intersectionnalité est une notion complexe que je ne maîtrise pas encore sur le bout des doigts. C'est donc pas bien malin de ma part d'en parler, j'en conviens, mais je me lance et je corrigerai ultérieurement les bêtises ou inexactitudes que je vais pouvoir dire. Je cite Wikipédia pour limiter les dégâts. Employée en sociologie et en réflexion politique, l'intersectionnalité désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de discrimination dans une société. Ainsi, dans l'exemple d'une personne appartenant à une minorité ethnique et issue d'un milieu pauvre, celle-ci pourra être à la fois victime de racisme et de mépris de classe. Le terme d'intersectionnalité a été proposé par l'universitaire afroféministe américaine Kimberly Williams Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les femmes afro-américaines pour en évaluer les conséquences en matière de pouvoir et expliquer pourquoi ces femmes n'étaient pas prises en compte dans les discours féministes de l'époque. Le sens du terme a depuis été élargi dans les années 2010 avec la montée du cybermilitantisme et englobe désormais toutes les formes de discrimination qui peuvent s'entrecroiser. En gros, pour résumer, au sein même du groupe des femmes, toutes affectées par le patriarcat de quelque manière que ce soit, toutes les femmes ne souffrent pas du même niveau d'oppression. Une femme blanche hétéro cis ne va pas expérimenter le monde pareil qu'une femme noire bi trans. Comme évoqué plus tôt, ce film de 2021 rend hommage au mouvement Riot Girl qui a débuté dans les années 90, mais qui a été qualifié par la suite, avec le recul, comme peu inclusif dans son féminisme, se contentant de parler par et pour des femmes, en majorité blanches, hétéro, cis. Sûrement parce que le milieu du punk rock était et est toujours un milieu peu ouvert. C'est là que Moxie ne va pas assez loin dans son propos selon moi. Les persos de Lucie et ou Claudia auraient gagné à être au cœur du film, à la place de Viviane. Lucie, qui est une jeune femme afro-américaine, homosexuelle, est plus engagée. Elle s'exprime clairement sur les luttes féministes et ne garde pas ses combats pour elle, ce qui prouve qu'elle a beaucoup subi et a intellectualisé ses opinions pour être tenace et visible, versus Viviane qui tombe dans le féminisme trop rapidement, à la suite d'un essai qui questionne les combats qui comptent pour elle, et elle se contente de lutter anonymement en plus. Ça aurait été tout aussi intéressant avec le perso de Claudia en héroïne, pour des raisons différentes. Que faire de l'engagement féministe quand on appartient à la deuxième génération d'immigrés ? De même, dans les persos secondaires, il y a une jeune femme trans et une jeune femme handicapée moteur. Elles doivent apparaître moins d'une minute à l'écran avec leurs scènes mises bout à bout. Elles comptent très peu de lignes de dialogue, elles sont tout juste visibles, histoire de dire qu'on a respecté les quotas. Le film tente une incursion dans l'intersectionnalité par la discussion entre Claudia et Viviane. Quand elle lui dit « Tu ne sais pas à quoi je suis confrontée car tu es blanche, moi je peux pas prendre les mêmes risques que toi. » Mais est-ce assez pour être considéré comme de l'intersectionnalité ? D'ailleurs, on peut regretter qu'il n'y ait pas de scène d'explication similaire entre Lucie et Viv. Au final, l'héroïne reste la fille blanche cis-hétéro qui vient d'un milieu privilégié. Après, le perso de Viviane, il a sûrement été écrit pour inspirer des nanas timides. Et en soi, il peut être un très bon point de départ au féminisme. Mais le rendu final donne une impression de mettre de côté les combats des personnes racisées, trans ou invalides, de les laisser encore et toujours en marge. En conclusion, le propos de Moxie s'est inspiré de la troisième vague féministe des années 90, qui n'était pas intersectionnelle et n'arrive pas à s'en émanciper, alors même que le film s'inscrit en pleine quatrième vague féministe de la fin des années 2010, qui tend à être beaucoup plus inclusive. À la place d'un film, Moxie aurait sûrement dû exister sous la forme d'une série, quitte à épouser le point de vue d'un personnage féminin différent à chaque épisode. Qu'en est-il de la suite ? Le film est sorti il y a 2 ans. Il n'y a pas eu de retombées énormes. Il a été plutôt mal reçu par les critiques qui lui reprochaient ce que j'ai pu développer plus tôt. Certains s'amusent à le comparer à Mean Girls, réalisé par la besta d'Amy Poehler, Tina Fey. Mais je pense que c'est pas très à propos. Comment comparer l'impact de Mean Girls en 2004, qui a eu une sortie cinéma dans un contexte de storytelling très cliché, à une sortie Netflix dans un monde qui souhaite offrir des histoires plus contrastées, plus nuancées. Peut-être que Moxie aurait pu mieux fonctionner en série qu'en unitaire. Toujours est-il qu'il a probablement été visionné plus de fois en 2 ans sur Netflix, qui en tant que plateforme VOD infiltre plus de 200 millions de foyers, que Mean Girls ne l'a été en quelques semaines d'exploitation cinéma et quelques années de commercialisation DVD. On s'accorde à pardonner à Mean Girls ce qui est problématique et le film a vieilli avec le changement de génération, ce qui est bien normal. Je suis persuadée que Moxie sera un film important pour des tas de jeunes qui pourront le citer dans 15 ans comme un film ref de leur adolescence et de leur initiation au féminisme. Et ce, malgré ses travers. C'est ça que j'apprécie particulièrement dans les teen movies, voir le chemin parcouru sur de nombreux sujets, à travers les films pour ados dont les discours et points de vue changent avec les années, et voir tout ce qu'il reste à améliorer pour les prochains teen movies qui seront réalisés. Merci de m'écouter depuis 1, 2 ou 3 épisodes. Si vous appréciez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'espère que ce genre de sujet vous fait réfléchir, tout comme moi ça me fait réfléchir en fait. C'est aussi ça que j'aime en matant des teen movies, c'est me poser des questions et remettre en question plein de choses que je pense aussi. Et si vous aimez ça, on se retrouve dans un mois.